Le WWF a fait paraître une étude selon laquelle la Méditerranée meurt par le plastique. La France a sa part, mais tous les pays vraiment riverains aussi. Face à de tels enjeux sur un large territoire, est-ce que le droit, est-ce qu'un tribunal climatique aurait une possibilité d'agir et surtout d'agir plus vite, parce qu'on sait malheureusement que la justice est lente.
Alors, qu'on ait besoin de droit pour résoudre ces sujets, j'en suis convaincue. Est-ce qu'il faut un nouveau tribunal? Peut-être pas. Moi, je me suis beaucoup battue pour qu'il y ait un tribunal pénal international de l'environnement et de la santé. Mais force est de constater, je me suis occupée de ça, et quand j'étais député européen il y a 7 ou 8 ans, on n'a pas avancé d'un poil depuis, ce qui veut donc dire que s'il faut attendre 25 ans, on ne peut pas attendre 25 ans. En revanche, ce que l'on voit de plus en plus aujourd'hui se développer, c'est ce qu'on appelle la justice climatique, c'est-à-dire des tribunaux nationaux qui sont saisis par des individus, des associations, des collectivités locales, des villes, pour voir condamner les États à faire un certain nombre de choses, ou pouvoir condamner les entreprises qui sont des grands contributeurs de gaz à effet de serre. Il y en a plus de 1200 dans le monde, dans tous les pays, qu'ils soient industrialisés ou qu'ils ne le soient pas. Bon, bien sûr, il faut une justice. Les pays où il n'y a pas du tout de justice, évidemment, ce que je dis est nul et non avenu. Enfin, pour les autres, ça fonctionne.
Voilà, il y a vraiment moyen de demander une responsabilité civile et pénale.
Moi, je crois beaucoup au droit. Il y a toute une jurisprudence qui est en train de se faire, un peu à côté des textes, en définitive, parce que la question climatique est en fait regardée de plus en plus comme une question de vie, de droit à la vie. Et à partir du moment où vous mettez le débat juridique sur ce point-là, tout le monde a droit à la vie. Donc, d'avoir des comportements qui mettent en péril la vie humaine, c'est des comportements répréhensibles. Alors, ensuite, il y a encore un pas à franchir quand vous passez au plastique et aux océans. Parce que là, c'est du droit à la vie, mais pour des générations. Donc, vous tombez plutôt dans le droit de la nature et dans le respect des équilibres. Mais à partir du moment où vous déterminez que ces respects des équilibres ont des conséquences absolument dramatiques sur la biodiversité et sur les émissions de gaz à effet de serre, à ce moment-là, vous rebouclez la boucle et vous pouvez repasser par le droit à la vie.
Donner un droit de sujet à un fleuve, ça peut faire avancer les choses?
Vous savez que ça existe dans certains pays, ça a été reconnu pour les arbres et pour les fleuves, notamment en Amérique du Sud où il y a une vieille tradition de terre-mère qui est sujet de droit, et donc ça rentre assez bien dans ces concepts-là. Disons que c'est pas très naturel dans nos pays de droit latin, mais en revanche, de considérer que les espèces vivantes ont le droit de vivre et de faire sanctionner les infractions qui sont commises à ce droit de vivre m'apparaît tout à fait possible sans qu'on passe nécessairement par le droit des espèces vivantes elles-mêmes à se défendre.
Pour l'éolien en mer, on ne voit rien venir. Le Canard Enchaîné récemment faisait un bilan catastrophique, 15 ans, 15 milliards de dépensés pour rien. Est-ce que la France pourra avoir un éolien en mer?
Écoutez, j'ai tendance à dire qu'on n'est pas plus bête que les autres et que les Anglais ou les Allemands sont bien capables de le faire. Donc pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable de le faire? Bon, d'abord, il y a eu des problèmes de filière industrielle. Hein. C'est-à-dire que la France avait fait privilégier, bien que ce soit un appel d'offres, Areva qui a laissé tomber. Ensuite, il y a eu les histoires avec Alstom. Donc tout ça fait que les filières qui avaient été choisies pour développer l'éolien en mer ont capoté plus ou moins. Deuxièmement, ce qui se passe dans l'éolien en mer, c'est aussi un peu ce qui se passe sur tout le renouvelable en France. C'est-à-dire que on a une parole publique qui est très ferme, nous voulons du renouvelable, mais dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et en fait, il n'y a pas une vraie volonté politique d'aller jusqu'au bout de filières qui soient capables de fournir massivement une électricité renouvelable. Or, l'intérêt de l'éolien en mer, même si certains le combattent parce qu'effectivement, on peut dire que ça défigure les côtes, on peut dire beaucoup de choses, hein, c'est quand même que ça fournit énormément d'électricité. Et avec beaucoup moins de questions liées à l'intermittence que l'éolien terrestre. Alors, les investissements sont beaucoup plus lourds, ça c'est indéniable, mais la rentabilité est beaucoup plus importante. Et force est de constater que l'éolien en mer, par exemple en Allemagne, constitue un des pans très importants de fourniture de l'électricité renouvelable.
Est-ce que la France est championne quand même de la résistance des populations? On voit à chaque fois qu'on parle d'éolien, de photovoltaïque, tout le monde se lever. Est-ce qu'il y a un travail de lobby? Est-ce que les populations sont ignorantes?
Partout où vous avez des projets qui sont montés de manière locale, par les collectivités, les habitants, vous avez zéro problème. Zéro problème. Là où les problèmes commencent à naître, c'est lorsque vous avez des sociétés qui viennent imposer, si je puis dire, notamment dans l'éolien terrestre, des très grandes éoliennes avec, je dirais, quasiment pas de retombées pour les habitants et les collectivités. Là, ça va plus du tout. Vous ajoutez à cela un lobbying d'EDF extrêmement efficace qui a consisté à monter des associations sous des noms divers et variés pour s'opposer systématiquement à tout projet éolien, avec parfois des succès, parce qu'on sait très bien que le contentieux, il y a bien souvent les dossiers ne sont pas parfaitement bien montés, et vous avez effectivement un contentieux redoutable, ce qui fait que là où il faut un an ou deux ans dans un pays voisin pour monter un projet, chez nous c'est 10 ans.
Alors maintenant, nous sommes à Marseille, nous sommes dans la métropole, est-ce qu'il y a une possibilité d'agir localement, sur le territoire, en jouant peut-être sur l'imposition fiscale, avec des sanctions ou bien des bonus?
Alors, moi je crois beaucoup que c'est sur les territoires que ça se passe. On voit bien qu'au niveau international, on est en face d'une forme d'impuissance des États. Et dans le monde, c'est très souvent les villes qui en fait reprennent le flambeau. Vous voyez par exemple des grandes villes américaines qui ont des politiques très avancées sur le plan de lutte contre le dérèglement climatique, qui vont directement à l'encontre de ce que fait le président Trump. Exactement le contraire. Donc moi je crois beaucoup au territoire. Je crois beaucoup aussi au territoire parce que c'est là où nous vivons. C'est donc là où la société civile, prise comme consommatrice, prise comme entreprise, prise comme ONG, peut effectivement trouver des solutions concrètes permettant la transition. Parce que si on veut passer de la parole aux actes, il faut rendre les choses possibles. Les rendre possibles sur un plan technique, les rendre possibles sur un plan financier et économique. Sinon, c'est impossible. Si les gens ne peuvent pas, ils ne font pas. Voilà. Donc, comment est-ce que vous rendrez les choses possibles? Eh bien, vous les rendez effectivement possibles par des systèmes de compensation économique qui vont favoriser ce qui est positif, défavoriser ce qui ne l'est pas, sans forcément toujours punir, mais simplement avoir un système de bonus-malus, ça marche très bien. Et ensuite, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez, mais si vous voulez polluer, ben vous payez 3 fois ce que vous payeriez si vous ne polluez pas.
Alors, dernière question, vous êtes une femme publique, politique. Quand même, on ne voit pas un enthousiasme à changer ces pratiques. À Marseille, le tri, par exemple, à de faibles niveaux. Comment faire en sorte pour que chacun soit un peu plus concerné? On voit les jeunes manifester, mais ils sont plutôt seuls.
Alors moi, je crois beaucoup dans les mouvements de jeunes. Parce que je crois que nos jeunes générations ont compris qu'on était en train de leur réserver un avenir complètement impossible. Donc ils se révoltent et ils ont raison de ne pas se laisser faire. Et nous, on est terriblement responsables de ce qu'on a créé, des monstres qu'on a créés. Ceci étant, là aussi, il faut arriver à donner envie d'eux. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui qui est finalement, qui fait peur. Dans un monde où on a l'impression que toutes les catastrophes sont en train de nous tomber sur la tête, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais ce qui n'est pas non plus tout à fait vrai, parce que on a des solutions pour nous en sortir. Alors, est-ce qu'elles seront suffisantes? Ça, l'avenir le dira, je ne sais pas. Mais enfin, en attendant, on n'est pas démunis. Mais une réaction, je dirais, très humaine, consiste, quand on est en face d'un immense problème, à le nier, à être dans une attitude de déni, et de dire, on a toujours fait comme ça, on va continuer. Je crois que c'est ça dont il faut sortir pour montrer aux gens que c'est pas une attitude rationnelle, mais ça ils le savent, et surtout c'est pas une attitude rentable pour eux-mêmes. et qu'ils ont du bénéfice personnel à trouver dans le changement, dans la transition. Ça, c'est tout un travail de construction de l'imaginaire, de l'avenir, d'un avenir enviable, désirable, et non pas d'une catastrophe qui va s'abattre sur votre tête. Donc c'est un très gros travail à faire auquel, mesdames et messieurs de la presse, vous participez.